Un monde plus grand, on va commencer par le film de Fabienne Berthaud avec Cécile de France. Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corinne pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour, mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage. Elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. Un film adapté du livre « Mon intuition chez les chamanes » de Corinne Sombrin, qui a d'ailleurs co-signé le scénario. On adhère ou pas à ce parcours initiatique?
La question principale pour moi, c'est quand même de savoir s'il faut payer 10 euros ou plus, même pour aller voir un numéro de Voyage en Terre Inconnue, un numéro inédit de Frédéric Lopez, sans Frédéric Lopez, mais avec Cécile de France, qui donc part effectivement dans la Mongolie des chamans. Alors la fiction n'est pas là, bien sûr, puisque c'est un numéro de Voyage en Terre Inconnue, donc il n'y a pas de fiction, sauf un mélo nébuleux de veuvage concernant le personnage de Cécile de France. Et le reste, c'est un long doc très militant, quand même, sur le chamanisme et sur les autres substances hallucinogènes qui vont avec. On doute un peu du plaisir qu'on peut y prendre, et puis surtout peut-être on souffre un peu de voir Cécile de France, qu'on aime beaucoup par ailleurs, embarquer dans cette galère faussement réaliste.
Mon chien stupide de Yvan Attal. Henri est en pleine crise de la cinquantaine, les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal au dos, il l'attribue à sa femme et ses 4 enfants. À l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s'installer dans la maison pour son plus grand bonheur, mais aux grandes dames du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme. Ce film, bien sûr, est tiré du livre « Mon chien stupide » de John Fante. Alors qu'on pense plutôt à une sorte de troisième volet après « Ma femme est une actrice » et « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », donc proche de l'autofiction, et on ne peut pas s'en empêcher parce qu'on connaît ce couple Attal-Gainsbourg depuis longtemps. Avait-il besoin de cette adaptation et de cette métaphore canine? Oui, peut-être, pour s'accorder et même s'approprier ce ton corrosif. Par parenthèse, Attal n'est jamais aussi bon que quand il est furieux, bougon, de mauvaise foi. Dommage que sa tribu, ses 4 enfants, soit un petit peu caricaturée. Heureusement, il reste ce couple et cette scène dans le canapé. Un morceau de tendresse, une bonne scène d'ailleurs, mais comme une fausse note dans ce film qui se voudrait plus méchant, plus cynique, comme l'est le livre de John Fante.
Il y a quand même 2 films, à mon sens, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire deux moments. La première partie qui est drôle, méchante, oui, sarcastique, oui, vraiment enlevée, on rit beaucoup. Et puis effectivement, le cinquantenaire pas très rugissant qu'incarne à la perfection Yvan Attal, devient de plus en plus mélancolique, parce que la mélancolie le prend fort justement. Et les enfants notamment, moi je trouve ça intéressant finalement qu'on s'y intéresse pas, parce que c'est en partie le propos du film aussi, c'est-à-dire qu'il n'existe pas aux yeux notamment de ce père, où il n'existe plus. Et il faut dire qu'aux côtés d'Yvan Attal, mais vous l'avez souligné, il y a Charlotte Gainsbourg qui est extraordinaire dans ce rôle de mère qui conjugue, on va dire, l'optimisme de la volonté avec le pessimisme de l'intelligence.
La Cordillère des songes de Patricio Guzman, 3e volet après, on se rappelle, La nostalgie, la lumière, merveilleux, et Le bouton de nacre. Il est bien sûr toujours question de la confrontation des hommes, du cosmos et de la nature, Laurent.
En voyant ce qui se passe actuellement au Chili, c'est un film qui résonne encore plus, c'est-à-dire ce pays n'en finit pas d'essayer de tourner des pages.
Et qui prévoit même d'ailleurs ce qui se passe maintenant.
Oui, absolument, une crise avec ce propos très particulier, en mettant au centre un collègue qui s'appelle Pablo Santas, qui n'arrête pas de filmer le Chili depuis le coup d'État de Pinochet, et encore maintenant, qui doit filmer les choses aussi en ce moment. Donc après le désert d'Atacama et après la Patagonie, on est dans la cordillère des Andes avec cette métaphore sur cet immense bloc de montagne qui est certainement une métaphore du Chili du passé et aussi du Chili actuel. C'est magnifique, la cordillère des songes de Patricio Guzman, c'est vraiment un magnifique documentaire.
Une autre montagne en France plus petite, Debout sur la montagne, Sébastien Betbédé. Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes, ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, devenus des adultes un peu abîmés par la vie, ils se retrouvent dans le village de leur enfance avec William Lebille, Isia Higelin, Bastien Bouillon. C'est un sujet qui pourrait tenir sur un post-it, pourquoi pas. Et cette question, peut-on retrouver la foi, la joie et l'innocence de l'enfance et reprendre une amitié là où on l'avait laissée, chez des trentenaires paumés? Ce qui pouvait être charmant dans les films précédents de Betbédé, cette fragilité, ce côté délicieusement maladroit, tourne cette fois en rond, à vide, un pauvre scénario qui sait pas où il va, un parfum amateur qui ne fonctionne plus.
Je retiens 2 choses néanmoins. André Wimps en curé qui programme un ciné-club dans sa paroisse où il ne passe que des films comme Freddy, Les griffes de la nuit. Ça me fait rire, je trouve qu'il est très très bien. Le sourire et le rôle est là, et la personnalité d'Isia Higelin transcende un petit peu les choses, mais ça dure 1h40, c'est beaucoup trop long pour ce qu'a à dire Belbédé.
Oleg de Juris Cursiétis. Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles où il espère travailler contre un salaire décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli par un criminel polonais avant de tomber sous une emprise mafieuse. Le film était à la Quinzaine des réalisateurs et c'est une perle, Laurent.
Oui, oui, c'est une vraie découverte, une vraie surprise, parce que bon, des films laitons, on n'en voit pas tous les matins, c'est vrai, hein, même en se levant tard. Mais il se passe à Bruxelles, alors bizarrement, pas bizarrement, mais on pourrait presque le placer sous le patronage des frères Dardenne, tellement, effectivement, ça décrit une sorte de parcours de descente, de longue descente aux enfers de quelqu'un qui voudrait s'intégrer et à qui la société refuse cette intégration et qui est pris en charge par une autre société qui est la société délinquante, donc avec beaucoup plus de problèmes. Et c'est filmé comme ça très très près des corps, avec une très belle façon de mettre les choses en scène. La toute petite réserve que j'aurai concerne la fin, que je ne raconterai évidemment pas, mais qui à mon avis tranche par son invraisemblance politique sur le reste.
Le Traître, on rappelle, bien sûr, on lui a consacré une émission, mais le film est tellement génial, de Marco Bellocchio. Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne, Tommaso Buscetta, membre de cette Cosa Nostra, arrêté par la police brésilienne puis extradé, prend une décision qui va changer le cours de la mafia, rencontrer le Falcone et trahir le serment de la Cosa Nostra. C'est une histoire pratiquement jamais racontée par le cinéma italien. Bellocchio s'en empare, peint le tableau historique avec une grande rigueur. Il s'est appuyé bien sûr sur de multiples documents, un peu comme Polanski, et des procès-verbaux, voilà pour la véracité. Mais comme c'est Bellocchio, il sait aussi décrire un climat, une tension. Il transforme un procès en opéra, mais aussi il entre dans la tête de ses protagonistes, un spectacle intime et collectif avec des grands moments de cinéma et un acteur absolument magistral pour incarner Buscetta, c'est Pier Francesco Favino. Louis Garrel, vous avez vu ce film?
Très très bon film, ouais. Et surtout qui démystifie comme ça l'image du mafieux viril et auquel on a envie de ressembler. Pour simplement décrire des crapules dégoûtantes et qui sont vulgaires et qui doivent vraiment être définies comme ça.
Ouais,
c'est la preuve
exactement.
Qu'on peut faire un chef-d'œuvre et repartir bredouille de Cannes.
Chichinette, ma vie d'espionne de Nicola Hans, incroyable cette femme. Allemagne 45, incroyable. Marthe Hoffnung, connue sous le nom de Chichinette, la petite casse-pied, infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les nazis. 74 ans plus tard, âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme une rockstar et témoigne inlassablement de son histoire, Laurent.
Oui, alors vous savez, sur les affiches des films, il y a parfois comme ça des mentions magnifiques, bouleversants, lumineux. Ben là, c'est vrai. C'est tout à fait vrai pour ce documentaire. Cette petite bonne femme de 96 ans, hein, s'il vous plaît, qui sillonne l'Europe avec son mari, alors qu'elle vit aux États-Unis, qui est haute comme trois pommes à genoux, et qui n'arrête pas de parler à des jeunes sur ce qu'il faut faire quand on est confronté à l'indicible, comme à la fois et la Shoah, et ensuite la libération, etc. Elle est courageuse, malicieuse, entêtée, perfectionniste. Elle est extraordinaire. C'est une leçon de vie qu'il faut impérativement aller voir au cinéma.
45 secondes pour une ressortie, Quand passent les cigognes. C'est une énorme ressortie, Mikhaïl Kalatozov. Un festival musique et cinéma.
Alors, Palme d'Or, oui, Palme d'Or 58. Hein,
oui, pour
il existe aussi en DVD chez Potemkin, ça permet aussi de contourner les choses si on ne veut pas le voir au cinéma. Et le 6e festival du cinéma et de la musique, c'est à la Boule du 6 au 11 novembre avec notamment Gabriel Garrett, Pierre Richard et André Téchiné. Musique et cinéma, on aime ça.
Les cadeaux vite, alors.
Bien sûr, très vite, évidemment. Pour Hervé Deluze, un livre Assayas plus de pardon, Los Angeles 1982. Ils y étaient tous les deux. L'un fait son journal de bord en texte, l'autre en photo. C'est au seuil.
Merci
et c'est
beaucoup.
Un très joli bouquin. Pour vous, Hubert Angamard, on a pensé que Henri Alcan ne vous était pas totalement inconnu. Ses mémoires s'appellent Le vécu et l'imaginaire, de Cocteau à Lozé. C'est aux éditions de la Table Ronde.
Merci
et c'est
beaucoup.
Une belle lecture. Pour vous, Grégory Gadebois, eh bien, nous avons choisi l'un de vos confrères récemment décédés, hélas, Jean-Pierre Mariel, Le lyrique et le baroque chez les éditions du Rocher. C'est une bio de Stéphane Koch. Et puis enfin, Louis Garrel, Sterling Hayden, ça vous dit quelque chose? Voilà, merveilleux acteur, évidemment, chez Kubrick, entre autres. Philippe Garnier en fait plus qu'une bio de cet acteur alcoolique, espion aussi à ses heures. C'est chez La Rabia et c'est à lire, avec très très joliment illustré également.
Énorme.